Upload UTC, l'université populaire du livre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web donné à l'UTC par Stéphane Crozat. Alors en WE1, on aborde les théories relatives aux technologies du web, comme la théorie du support, la raison computationnelle. On apprend aussi à se servir d'outils du web, en mettant en ligne son site web sur un serveur distant par exemple. On se penche aussi sur des outils méthodologiques, des aspects culturels du web, etc. Et les étudiants et les étudiantes de WE1, chaque semestre, eh bien, ils travaillent à publier sur le web un dossier thématique sur donc une problématique technologique du web. Alors tout à l'heure, si vous écoutiez Graphite déjà en début d'après-midi, vous avez entendu la voix de Stéphane et de celle des étudiants et des étudiantes qui ont travaillé sur les thèmes des logiciels libres et de la décentralisation du web et sur l'allotechnicisation du web et l'impact de la publicité. Et puis maintenant, je suis avec Hector Valui. Bonjour Hector.
Bonjour.
Bonjour aussi à Alexis Temple.
Bonjour.
Je suis aussi à côté d'Eléo Bouvier. Bonjour Eléo.
Bonjour.
Il y a aussi Antoine Cessini.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Antoine et bonjour Isabelle Massignon.
Bonjour.
Bonjour Isabelle. Alors tous les cinq, vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème des espaces de discussion en ligne. Et donc vous êtes en studio maintenant, en direct, pour nous présenter un exposé collectif à ce sujet. Alors comme d'habitude, les autres étudiants et étudiantes du TD sont à l'écoute de votre intervention et puis ils ont pour mission de vous poser quelques questions sur Mattermost que je vous relayerai au micro. Eh bien, on est parti pour une première phase avec Hector. Hector, tu vas nous parler des intentions politiques sous le design d'un espace numérique de discussion. Tu vas nous parler de tout ça, tu es prêt ?
Oui, alors en effet, bon, on va commencer par une introduction générale de notre sujet de groupe. Donc, les outils numériques ont révolutionné notre façon d'interagir. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a à disposition et utilise Internet pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela touche aussi notre manière de débattre. Que ce soit sur des forums spécialisés, sur des médias sociaux ou différents types de sites, il existe de nombreux espaces en ligne destinés à la discussion et qui sont utilisés par une communauté très variée, dans laquelle on peut retrouver des personnes de tout âge, tous milieux sociaux confondus, toute opinion politique. Donc dans le cadre de l'UVWE1, nous nous sommes penchés sur la question de ce changement et ce qu'il impliquait dans nos modes d'expression en ligne. Ainsi, à travers ce site et en nous appuyant sur nos différentes lectures d'essais et nos recherches, nous avons tenté de répondre aux problématiques suivantes. Comment la conception des espaces de discussion en ligne, comme les forums, les médias sociaux, les sites web spécialisés, oriente-t-elle les modes d'expression d'un débat en ligne ? Quelles intentions les concepteurs de ces outils traduisent-ils dans les interfaces et les fonctions d'interaction de ces espaces numériques ? Quelles pratiques attendues ou imprévues émergent-elles de ces délibérations instrumentées ? Quelles relations peut-on identifier entre les sémiotiques d'une interface et le comportement d'un participant au débat ? Quelles limites peut-on identifier dans ces outils de délibération en ligne ? Pour répondre donc à ces différentes questions, je commencerai par vous parler des projets politiques derrière les designs des espaces de discussion en ligne. Puis Alexis vous parlera des médias sociaux comme étant un espace de discussion et de débat. Ensuite, Eléo vous parlera de la politesse sur les espaces de discussion en ligne. Antoine continuera en vous parlant des forums de discussion en ligne. Et enfin, Isabelle conclura en vous parlant des limites de la prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc je vais commencer. Cette partie donc, a pour but de faire comprendre aux futurs ingénieurs et développeurs la potentielle portée politique de leur création. J'ai pour ma part analysé un article de Romain Badoir qui traite justement de ce sujet. Tout d'abord, la question centrale de cet article est la suivante. Les technologies du numérique sont-elles intrinsèquement politiques de par leur design ? Donc, comme le précise très bien l'auteur au début de l'article, cet article se veut avant tout théorique. Il s'agit de relire un certain nombre de travaux s'intéressant aux enjeux politiques des technologies numériques en nous focalisant sur la manière dont leur design est pensé en relation avec un projet politique. Finalement, on perçoit assez rapidement des enjeux politiques dans certaines utilisations d'Internet qui nous sont très familières. En effet, on peut parler des couches techniques qui viennent contraindre les utilisateurs. On peut rapidement en citer quelques-unes, comme les applications, les sites, le web ou bien encore Internet. Il y a aussi les algorithmes de moteurs de recherche, comme Google, qui d'après de récentes études sociologiques, comme celle de Reader en 2012 ou bien encore Cardon en 2013, produisent des effets proprement politiques, car ils ordonnent le web selon des principes de popularité et de méritocratie, ce qui engendre des effets directs sur les comportements des internautes. De même, nous pouvons aussi parler des designs des outils technologiques qui induisent la possibilité à certaines actions ou viennent en contraindre d'autres. Excusez-moi. Il y a aussi l'arborescence des sites qui orientent les internautes vers certaines pages, valorisant ainsi certaines informations ou certaines activités. Dans cet article, l'auteur a donc voulu appréhender les technologies de par leur design, ce qui signifie décrypter ces technologies pour les mettre en relation avec un projet politique qui vise à orienter et cadrer les activités des internautes. L'auteur vient ainsi appuyer son propos en parlant de gouvernementalité algorithmique, en expliquant que cela produit un effet de boîte noire, tel que la manipulation des technologies numériques de participation entraîne une conduite participative et donc politique, sans que les usagers en aient forcément conscience. Nous allons écouter donc un extrait d'Antoinette Rouvroy, docteur en sciences juridiques, qui justement parle de cette gouvernementalité algorithmique. Excuse-moi. La vidéo est disponible sur YouTube.
Je dirais pour faire simple que c'est un mode de gouvernement qui est nourri essentiellement par des données numériques et donc c'est une modélisation du monde social qui est fondée plutôt sur des données quantifiables, sur les sortes de phéromones numériques qui surgissent, qui se collectent en temps réel ou qui prolifèrent du monde physique, plutôt que sur des normes sociales, politiques, idéologiques, préétablies. Donc c'est une sorte de gouvernement qui a des prétentions à une sorte d'immanence. C'est comme si c'était le réel qui se gouvernait lui-même à travers les données. Les données qui, dans cette idéologie des big data, une idéologie technique des big data, passent pour être en quelque sorte le langage des choses elles-mêmes. Donc qui prétendent nous dispenser de toute interprétation, de toute transcription. C'est comme si c'était le monde qui parlait spontanément à travers les données.
Je reprendrai les mots de Madeleine Akrisch. C'est en ce sens que les objets techniques peuvent être considérés comme des instruments politiquement forts, dans le même temps qu'ils produisent des modes d'organisation sociale. Ils les naturalisent, les dépolitisent, leur confèrent un contenu autre. Des mots qui me rappellent énormément ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux. En effet, les nouvelles générations qui ont grandi avec, utilisent les réseaux sociaux comme moyen de sociabilisation. Le fait de s'être habitué à ces outils numériques dès leur plus jeune âge a entraîné pour beaucoup de jeunes une naturalisation de ces outils numériques. Il est par ailleurs évident que pour tous les gens qui sont encore trop jeunes pour percevoir les différents enjeux politiques de nos sociétés, ils ne peuvent absolument pas avoir conscience des enjeux politiques qui se jouent au sein de ces réseaux sociaux. C'est certes une affirmation assez radicale, mais on s'en rend très bien compte en lisant La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, ainsi que Toxic Data de David Chavalarias. Pour en revenir aux ingénieurs et développeurs, je vous invite à lire l'article de Romain Badoir en remplaçant le mot « design » par « conception ingénierique ». Vous comprendrez alors aisément que toute conception ingénierique porte potentiellement un projet politique. Il sera alors question pour votre devenir d'ingénieur et ou de développeur de ne pas accepter toute demande de conception, mais de bien analyser et comprendre les enjeux politiques qui sont derrière afin d'éviter toute manipulation. Merci.
Merci Hector, merci beaucoup pour cette première partie. Alors, tu nous as parlé juste à la fin là, de la relation des adolescents au numérique. En particulier, tu viens de citer La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger et Toxic Data de David Chalavarias. Alors, eux, ils défendent la thèse selon laquelle l'usage intensif du numérique affecte les comportements et les capacités cognitives des jeunes sans qu'ils ne s'en rendent forcément compte. Alors, on peut mettre en perspective ces arguments-là avec ceux qui sont développés par Dana Boyd. Dana Boyd, c'est une sociologue américaine qui explique dans son ouvrage intitulé « C'est compliqué » que les adolescents sont tout à fait conscients de leur rapport au numérique, mais qu'ils sont en fait en recherche d'espace pour discuter entre eux, pour se retrouver. Alors, face à ces deux arguments qui peuvent sembler comme ça contradictoires, on peut se demander comment est-ce que les ingénieurs, les développeurs auxquels tu t'adresses peuvent faire pour essayer de concilier à la fois ce besoin pour les adolescents, pour les jeunes, de discuter de façon intensive, de se retrouver dans des espaces de discussion en ligne, et les précautions nécessaires pour éviter de fabriquer les crétins digitaux dont tu parlais plus tôt. Est-ce qu'il est plutôt préconisé de contraindre, d'éduquer ? Qu'as-tu lu éventuellement à ce sujet ?
Alors déjà, je pense que tout se joue au niveau de la conception. Si on a envie d'avoir, des outils numériques pour les adolescents tels qu'ils puissent ne pas être contraints ou avoir certaines libertés, etc. Tout se joue au niveau de la conception. Maintenant, quelles seraient les meilleures solutions ? C'est un peu parler avec des si, hein, mais on pourrait... Ce serait hypothétique, j'ai pas réellement de... À partir de là, ça aurait déjà été fait, donc forcément, mais...
C'est une question compliquée, Hector, absolument. Est-ce que tes camarades ont éventuellement des pistes, hein, ceux qui se pensaient tranquilles à côté de toi? Pas forcément, bon. Est-ce que, non, tu ne veux pas ajouter quelque chose immédiatement? Si tu veux, on passe et puis on pourra revenir après sur la question de
si
la relation aux jeunes. Voilà, on prendra le temps après. Ça marche, Hector, ok. Alors, on va passer la main à Alexis. Et puis t'inquiète pas, il y a des questions qui vont arriver sur Mattermost aussi. Vous serez libre de répondre ensemble. Alexis, tu vas nous parler des médias sociaux, plus particulièrement comme espace public de discussion et de débat. Si tu es prêt, Alexis, je te passe la main.
Hop, c'est bon, je peux y aller. Donc, du coup, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment les médias sociaux offrent-ils un espace de discussion et de débat? Alors, juste pour se rappeler, un média social est une plateforme sur Internet qui permet aux gens de créer du contenu, d'organiser ce contenu, de le modifier ou de le commenter. Nous verrons trois points différents pour répondre à cette question. Nous commencerons par la liberté de parole et le sentiment d'être écouté. Ensuite, nous verrons des limites des médias sociaux en vous passant un extrait de notre interview. Et pour finir, nous verrons que les médias sociaux sont une nouvelle source d'information. Commençons par la liberté de parole et le sentiment d'être écouté. Alors, les médias sociaux offrent des espaces de discussion et de débat. Cela est essentiel pour le fonctionnement d'un média social. L'objectif pour un média social est que tout le monde puisse parler et puisse être écouté. En tout cas, c'est ce que pense Marcos Barros, professeur associé au département Hommes, Organisation et Société de Grenoble École de Management. Et il dit, je cite, « Il est essentiel de reconnaître le besoin d'expression du public, la possibilité d'exprimer sa voix et idéalement d'être écouté, devient une valeur centrale. Il est donc important que le public perçoive que ses propos ne sont pas censurés ou ignorés. » Les tentatives de censure ou de dévalorisation de l'expression des clients peuvent être extrêmement préjudiciables à l'image de l'organisation. Fin de citation. Les médias sociaux ont une dimension planétaire. D'après le rapport Outshoot and We Are Social, 51% de la population utilise un média social. On peut discuter avec une personne située à l'autre bout du monde, même si on ne parle pas la même langue. Les médias sociaux ont en effet installé des traducteurs automatiques pour que l'on puisse comprendre tout le monde et pour que l'on puisse être compris par tout le monde. Ces médias sociaux qui ouvrent des espaces de discussion et de débat en ligne. Alors maintenant, nous allons vous passer à un extrait de notre interview avec Jérôme Valuet, enseignant à l'université Panthéon-Sorbonne et chercheur au COSTEC de l'université de technologie de Compiègne. Alors le passage audio correspond une partie de sa réponse par rapport à la question. Pouvez-vous nous dire quelles sont les limites des médias sociaux? Quels sont leurs défauts, leurs problèmes à corriger?
Les réseaux sociaux, les médias sociaux permettent de mobiliser des milliers de personnes en quelques minutes ou des millions de personnes en quelques heures. Ça permet effectivement de perturber, de déstabiliser des systèmes, notamment les systèmes politiques en place, qui donnent à ce moment-là l'illusion d'un certain succès, ce qui est apparu pour la révolution turque de 2011 ou la révolution égyptienne, mais ça ne permet pas de guider stratégiquement les mobilisations sociales vers un destin qu'elles ont choisi, ça ne permet pas de construire collectivement une doctrine politique consensuelle, ça ne permet pas de construire un projet de société alternative à la dictature qu'on cherche à renverser. Résultat de ces révolutions connectées, et là, les exemples de la Turquie et de l'Égypte sont extrêmement flagrants, eh bien, certes, les révolutions ont déstabilisé les dictatures qui étaient en place, mais elles ont conduit à la réinstauration d'autres dictatures qui sont encore plus terribles que les précédentes.
Alors, du coup, nous allons maintenant passer aux médias sociaux comme étant une nouvelle source d'information. Alors, les médias sociaux sont devenus une source d'information qui dépasse les médias traditionnels, comme la télé ou la radio. Une étude de l'American Press Institute, datant de 2015, réalisée auprès de jeunes de 18 à 34 ans, souligne que 88% des sondés, inscrits sur Facebook s'informent régulièrement par ce biais. Les internautes peuvent donc réagir directement à l'actualité sur les médias sociaux, ce qui ouvre un espace de discussion et de débat sur ce sujet. D'après Bonnie Ruben, qui est passionné pour l'informatique, les médias sociaux et les questions liées aux droits de l'homme, il dit, je cite, « Les médias sociaux offrent aux acteurs et aux institutions politiques, ainsi qu'à la population, des possibilités d'interaction novatrices. » Fin de citation. Les politiciens publient de plus en plus leurs idées politiques sur les médias sociaux. Par exemple, en 2008, aux États-Unis, Barack Obama remporte l'élection présidentielle après une campagne extrêmement bien menée, En effet, le 4 novembre 2008, Barack Obama est le premier président noir élu aux États-Unis. Durant cette campagne, les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant. Barack Obama s'était offert les services de Chris Hughes, un des cofondateurs de Facebook, qui est parvenu à rassembler 500 000 de militants qui sont devenus des acteurs centraux de la campagne. Les internautes peuvent directement réagir aux messages politiques des politiciens. Grâce aux médias sociaux, il y a une discussion possible entre les politiciens et la population, même si la discussion est plus simple dans un sens que dans l'autre. En effet, il est plus simple pour un internaute de répondre à un politicien. De plus, les politiciens reçoivent plus d'insultes, des critiques, que des réactions à leurs idées politiques. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi Alexis pour cette partie très intéressante aussi. Alors tu as terminé sur la discussion politique en ligne. Alors comme tu le disais, ça va plutôt peut-être dans un sens que dans l'autre, au sens où souvent ce sont les internautes qui vont, enfin les utilisateurs et l'utilisatrice lambda des médias sociaux qui vont poser des questions, essayer d'interpeller les personnes plutôt de notoriété publique sur ces médias sociaux. Mais je ne sais pas si la discussion s'établit vraiment dans les deux sens. Et puis si, alors tu vas me dire si tu as des pistes là-dessus, et s'il existe des espaces de discussion en ligne créés spécifiquement pour ça, pour discuter de politique, pour interpeller des personnalités publiques, pour proposer émettre des propositions justement politiques. Est-ce qu'il existe des espaces de discussion spécifiquement faits pour ça?
Alors moi personnellement j'en connais aucun. Après, j'imagine en tout cas qu'il existe sûrement des blogs, enfin des groupes sur Internet qui discutent de politique. C'est évident, enfin, il y a des chaînes YouTube qui parlent que de politique, il y a des comptes sur Instagram qui vont parler que de politique, on peut s'informer de l'actualité politique. Mais après, personnellement, moi, j'en connais aucun. Enfin, déjà, parce que je suis pas très intéressé par la politique, donc j'ai jamais été chercher personnellement des sites où on peut discuter avec des politiciens. Mais voilà.
D'accord, oui. Et je vois que Hector, tu veux relancer quelque chose.
L'un des grands dangers de ces forums en ligne, c'est souvent de se renfermer sur une idée, ce qui est assez fréquent dans ce genre de cas. On a l'impression d'être utile à la cause, mais en réalité, on ne parle qu'avec une communauté assez restreinte. Il faut faire assez attention à ce genre de débat politique, comme on dit, mais... Ça reste à prendre avec des pincettes.
D'accord, et on reste un petit peu entre nous, quoi. C'est ce que tu me dis.
Finalement, c'est un peu ça. Ouais.
Bon, alors on va voir dans la suite de votre intervention si il faut être fataliste par rapport à cela ou pas, et puis si aussi on est obligé d'échanger sans politesse. Alors, Léo, j'ai cru comprendre que tu allais justement nous parler de la politesse sur les espaces de discussion en ligne. Et Léo, est-ce que tu es prêt pour nous parler de ça?
Oui, bien sûr. Donc je vais vous parler de la politesse sur les espaces d'échange en ligne. Donc dans un premier temps, il nous faut définir ce qu'est la politesse. Nous conserverons la définition proposée par Bruno Bachimon en 2015, qui présente la politesse comme étant cette marge de manœuvre entre les normes. Elle est faite d'adaptabilité et de flexibilité à et entre des normes, du coup, qui peuvent être parfois contradictoires. La politesse peut se résumer à une négociation ou à une conjugaison entre plusieurs éthiques sans pour autant prétendre en défendre une. Mais en cas d'échange en ligne, l'outil numérique entre en jeu. Permet-il la libre expression des normes sociales et garantit-il la neutralité politique? Le numérique par nature renvoie à une neutralité éthique. En effet, son recours au protocole et à une logique purement calculatoire garantissent sa neutralité. Au plus proche de l'ordinateur, toute donnée est traitée indépendamment de son sens. Maintenant, chaque algorithme ou médiation technique employée pour réaliser un système effectif découle de choix humains qui orientent ce qui est possible de faire avec ce système. Bachimon place justement la notion de technique normative qui programme une action sans qu'on puisse percevoir ou qu'on ne pense plus que ça aux alternatives. Comme par exemple sur beaucoup de sites, on a le bandeau des cookies qui s'affiche et qui est là vraiment insistant et sans réfléchir, on accepte et on ne voit pas vraiment d'autres solutions. Puisque les systèmes numériques, notamment les outils de discussion en ligne, ne sont pas conçus pour être neutres par les concepteurs, ils favorisent des agirs à d'autres et influencent ainsi la politesse et plus généralement les discussions avec autrui. À plus grande échelle, les entreprises du numérique influencent notre façon d'être et de penser. Nous allons rapidement écouter M. Jérôme Valuy à ce sujet.
les plateformes ne nous amènent comme flux de communication que ce qui correspond à ce que nous connaissons déjà et au fond à ce que nous aimons déjà. Et il renforce par ce phénomène, il renforce nos convictions, il renforce nos certitudes, mais il ferme notre cerveau. Il lui empêche de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas, voire à ce que nous n'aimons pas. Donc, ils réduisent la capacité de diversification intellectuelle, la capacité finalement à saisir la complexité du monde social et économique. Ils réduisent aussi notre capacité à entendre des points de vue différents, alors que ces points de vue différents sont précisément ceux qui nous permettent de progresser dans notre compréhension des systèmes économiques et sociaux. Donc, on peut dire que, bien loin d'ouvrir des espaces de discussion, en fait, les médias sociaux font disparaître les vrais espaces de discussion qui existent ou qui existaient dans la société.
Donc, comme énoncé dans ce court extrait, les entreprises du numérique nous confortent dans nos opinions pour nous procurer de la satisfaction, ce qui a pour effet de nous rendre incapables de concevoir et d'échanger sur une autre vision des choses. C'est là la première grosse limite aux échanges en ligne. Selon Bachimon, on a également les chartes d'utilisation et les règlements de bonne conduite qui empêchent toute mise en place d'une politesse du numérique imposant ses propres normes à tous les utilisateurs et réduisant considérablement les espaces de manœuvre. Finalement, pour les discussions en ligne, sous couvert d'un pseudo-anonymat, un individu peut tenir des propos haineux, insultés ou harcelés sans le moindre contrôle social et bien évidemment sans la moindre retombée. Chacun peut se retrouver soudainement et sans aucun signe précurseur soumis à la vindicte publique ou à la rancune d'un groupe donné. Malgré le fait que le numérique ouvre la possibilité à de nouvelles rencontres, le modèle économique employé par les entreprises du numérique peut rendre ces rencontres stériles. Et c'est malheureusement ce qui pêche dans la plupart des cas. Merci pour m'avoir écouté.
Merci à toi, Léo. Merci. Alors, tu viens nous dire, donc, tu as terminé ta partie en nous disant que, eh bien, malgré le fait que le numérique, je sais te citer correctement, malgré le fait que le numérique nous ouvre de nouvelles possibilités de rencontres, de discussions, eh bien, c'est aussi à cause du modèle économique de ces espaces-là, des entreprises du numérique, eh bien, ça rend ces rencontres stériles. Alors, est-ce que... Donc, à partir de là, est-ce qu'un média social qui suivrait un autre modèle économique permettrait de donner plus de place à la politesse, selon toi ?
L'influence qu'on subit des modèles économiques sont vraiment sur un plan global. Donc, ce n'est pas seulement le média, c'est tout ce qu'on peut voir à côté. Donc, après, si on se détache vraiment de tout le reste, de tout ce qui est Facebook et compagnie qui vont nous donner ce qu'on a envie de voir... Peut-être qu'on peut arriver à avoir des discussions en ligne plus ouvertes avec des gens plus ouverts d'esprit. Car souvent, dans les personnes qui consomment régulièrement du contenu sur les médias classiques d'Internet, on trouve vraiment cette conviction dans leurs idées, cette certitude d'avoir raison. Et généralement, c'est pour ça que les débats en ligne sont rarement très élaborés et tournent rapidement à l'insulte.
Bon, d'accord, Léo. Ok, merci pour ta réponse. Alors, Antoine, tu veux nous parler à la suite des forums de discussion. Je ne sais pas si on s'insulte autant sur les forums de discussion. Bon, tu vas nous parler d'autre chose.
On va voir ça.
À toi.
Bien, bonjour à tous. Merci de nous écouter. Merci de nous permettre de présenter nos travaux. Pour ma part, donc, je vais aborder un type de média social sur lequel j'ai travaillé en analyse. Et donc, il s'agit des forums de discussion en ligne que je vais aborder de manière assez théorique. En m'appuyant donc sur l'étude menée par Erika Lombard et Cédric Ferron en mars 2020, je vais évoquer avec vous les différentes spécificités donc, des discussions qui ont lieu sur ces environnements faisant partie de la CEMO, donc, que je vais définir juste après, et tout ça en approfondissant donc, le cas des forums de discussion qu'on retrouve en ligne et auxquels on fait régulièrement appel, surtout lorsqu'on est étudiant en informatique pour ma part. Donc la CEMO, pour la définir, c'est un terme générique qu'on utilise dans ces analyses et qui signifie la communication écrite médiée par ordinateur et donc plus largement la communication sur ces médias sociaux dont on a déjà eu l'occasion de parler aujourd'hui. Ces analyses ont un enjeu important puisque ces différents environnements représentent des sources de données assez importantes pour les chercheurs et pour les jeunes qui s'informent maintenant de plus en plus sur ces médias sociaux. Et depuis les années 2000 et surtout à la fin de la première décennie, on a une accumulation considérable du nombre de données récoltées sur ces plateformes. Et donc, en général, dans ces analyses de la communication sur les médias sociaux, on choisit de procéder selon cinq axes. C'est en tout cas ce qu'on choisit de faire Erika Lombard et Cédric Ferron. Et donc, le support, d'une part, est abordé, le but de la communication dans un second temps, et ensuite, on complète avec les acteurs, la synchronie et le pseudonymat, qui sont des notions qui donc influencent la communication sur les forums. Pour débuter, donc, on peut dire que, pour ce qui est du support, il n'est plus trop pertinent de mener une analyse trop profonde, puisque désormais les forums sont accessibles depuis n'importe quel appareil en fait qu'on utilise quotidiennement. De plus, ces appareils sont extrêmement présents, puisqu'il est impossible désormais d'évoluer dans notre société, ou presque impossible, sans en être équipé. Pour cela, voyons ce qu'en pense Jérôme Valuy, donc chercheur au laboratoire COSTECH de l'UTC, que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter il y a quelques minutes.
La troisième étape de personnalisation dans l'informatique concerne les années 2000, enfin le 21e siècle. Ça concerne l'accumulation massive de données personnelles et la croissance exponentielle du volume de ces données personnelles, je dirais à proportion d'une autre croissance qui est celle des taux d'équipement individuel en support de réception, ordinateur, tablette et smartphone. Donc, c'est une croissance qui se joue principalement entre 2005 et 2006 et 2010 pour les taux d'équipement des ménages qui explosent à des hauteurs de 80% en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord et qui amène à une situation actuelle où on a quand même près de la moitié de l'humanité, 3 milliards environ, d'individus qui sont connectés à l'Internet. C'est un phénomène tout à fait nouveau qui permet aux plateformes de capter des masses de données qu'on n'imagine pas, des milliards d'octets ou des triards d'ailleurs de masses de données. Ces données sont si nombreuses, si diversifiées, si intimes, si précises qu'elles permettent de nous envoyer des messages très pertinents pour chacun d'entre nous.
Donc, comme vous avez pu l'entendre, les supports de communication, de par leur pluralité, leur spécificité et la quantité de données en fait, qu'ils servent à récolter, ne rendent donc pas l'analyse de cette communication sur les forums, en tout cas très pertinente. C'est plutôt d'autres aspects qui la rendent pertinente. Sans trop attendre, du coup, on peut déjà voir que les choses ont beaucoup changé au niveau du but, cette fois-ci, de la communication sur les forums, et que c'est là-dessus que l'analyse devient assez pertinente au final. Donc autrefois, les forums étaient fortement utilisés et quasi exclusivement en fait à des fins d'apprentissage ou professionnels. Et puis au fil des années, les choses ont changé, ont évolué et de véritables communautés se sont créées. On assiste à donc une véritable ouverture des utilisateurs. Les gens se livrent beaucoup plus et donnent bien plus leur avis, se dévoilent sur ces forums. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ce sont les acteurs de cette discussion. On sait que les médias sociaux sont utilisés pour plusieurs types d'interactions. Dans le cas des forums, on est sur une interaction ou une communication dite hybride, puisqu'au départ, on a un premier message qui vient voilà, comme une bouteille jetée à la mer et qui témoigne donc d'une communication de masse. Et au final, dès le deuxième message, on est sur une communication interpersonnelle qui implique par défaut deux personnes ou plus. Donc au-delà des types d'interactions qu'on y trouve, on est sur des environnements dits asynchrones. Contrairement aux environnements synchrones ou quasi-synchrones, les forums, qui sont donc des asynchrones, introduisent un temps de réponse long et donc un apport linguistique d'une part et des réponses bien plus réfléchies d'autre part. Ce temps de réponse induit également une possibilité pour tous de participer à la discussion très facilement, ce qui favorise donc l'expression de chacun. Et enfin, sur les forums, comme sur la plupart des médias sociaux, cette notion de pseudonymat. En effet, le fait de masquer son identité derrière un pseudonyme a des apports tant positifs que négatifs. Positif puisque ça permet en fait une certaine sécurité qui pousse certains internautes à s'exprimer librement sans craindre quoi que ce soit. Et négatif puisque cela, et ça a été montré par Santana dans une étude en 2014 notamment, ça implique une augmentation de la cyberviolence verbale et de la dissimulation. Et en fin de compte, donc, les forums permettent beaucoup de choses, s'exprimer librement avec des messages construits, tant dans le but d'apprendre ou de réussir que pour créer des liens ou se confier pour aller mieux. Tout cela sous couvert en fait d'anonymat ou de pseudonymat, et parce que sur Internet on n'est jamais vraiment anonyme, et donc dans une certaine mesure on se sent en sécurité. Cependant, on s'expose à des discussions inachevées, un dévoilement de notre intimité au grand public, ainsi qu'à de la violence verbale, puisque l'étude de Santana, dont je fais référence précédemment, évoque des chiffres assez alarmants, puisque en 2014, 53,3% des messages circulant sur les médias sociaux présentaient des propos racistes, haineux, et donc ça s'accompagne aussi de dissimulation. Merci à vous pour votre écoute.
Merci Antoine. Merci à toi pour cette partie sur les forums de discussion. Et tu as terminé donc sur, bien sûr, les discussions avec de la violence verbale. Et à ce propos, Sixtine fait le lien entre la partie d'Eléo et puis ce que tu viens de nous dire. Elle se demande comment assurer la politesse sur les forums de discussion en ligne. Alors, vaste question. Et tu vois, un petit peu plus tôt, Quentin se demandait si les réseaux sociaux n'ont pas leur propre système de politesse. Alors, est-ce que les forums de discussion pourraient avoir leur propre système de politesse? Comment assurer un petit peu plus de...
Alors, déjà, bonjour Sixtine, bonjour Quentin. On a, en effet, depuis pas mal d'années, sur beaucoup de médias sociaux, des systèmes de modération. C'est les auditeurs ou les internautes eux-mêmes, en tout cas ceux qui participent au débat ou à la discussion, qui modérer en fait la discussion, d'exclure ceux qui ne font pas preuve de politesse ou qui ne respectent pas les règles de ces médias sociaux-là. Donc créer un système de politesse sur les forums, en tout cas. Je pense que au vu du nombre de personnes qui participent à ces choses-là et de leur implication, parce qu'on voit aussi sur Twitch qui est une plateforme, donc un média social, sur lequel beaucoup de jeunes se rendent de nos jours. Ce type de système de politesse, de modération se développer. Et donc, je pense que c'est une bonne solution, parce que ça marche assez bien. Et en fait, on voit quand même sur ces choses-là que les jeunes font finalement de plus en plus attention avec ce système-là. Donc je pense que c'est le plus adapté en tout cas.
Entendu, merci Antoine pour ta réponse. On va passer la main à Isabelle pour une dernière partie, la dernière partie de votre intervention. Alors Isabelle, tu vas nous parler de l'influence des outils numériques sur la qualité du débat public. Tu veux nous parler de ça, es-tu prête Isabelle?
Oui, je suis prête.
Allez, c'est parti.
Donc nous avons vu comment les médias sociaux orientent nos modes d'expression, mais en effet maintenant je vais appuyer sur les différentes limites qu'ils impliquent. Donc pour aborder le sujet, je vais m'appuyer sur l'essai de Geoffroy de Bramanterre qui porte sur le sujet des nouvelles technologies et de la délibération et qui répond à la problématique suivante. Dans quelle mesure les outils numériques peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité du débat public? Donc de Bramanterre est assez sceptique par rapport à la qualité des débats virtuels qu'il appelle libres, c'est-à-dire les débats qu'on peut retrouver sur des plateformes qui ne sont pas encadrées, par exemple sur les réseaux sociaux, les forums de discussion en ligne, ou encore les sections de commentaires présentes sur certains sites de presse. Il parle quand même de certains avantages de ces espaces de discussion, notamment le fait que tout le monde peut y participer, quel que soit l'âge des participants, leur milieu social, etc. On a donc un accès universel à ces plateformes. Cependant, il souligne aussi le caractère sauvage de ces discussions, c'est-à-dire que les débats sont souvent lancés de manière spontanée et ils sont souvent lancés lorsqu'un utilisateur émet une opinion ou réagit à du contenu. Sauf que si l'utilisateur émet une opinion de manière spontanée de cette façon, c'est dans la plupart des cas parce qu'il a une relation particulière avec la thématique en question et que le sujet le touche personnellement. Donc il explique que l'utilisateur aura donc souvent tendance à avoir un ton virulent pour exprimer son opinion. On retrouve donc souvent des débats dans un climat tendu sur les réseaux sociaux avec des commentaires provoquants. Et on a un effet boule de neige qui fait que le débat ressemble rapidement plus à une discussion virulente et sans logique, plutôt qu'à un débat raisonné et appuyé sur des arguments. Je suggère donc que ces plateformes qui ne sont pas encadrées sont nocives pour le débat public, puisqu'en plus d'être inefficaces puisqu'elles n'aboutissent pas à un débat raisonné, elles ont le risque de présenter l'opinion des utilisateurs les plus virulents comme l'opinion générale. Donc on va maintenant écouter un extrait de l'UMNI qui traite du cas particulier des réseaux sociaux.
Mais quand le maire de Troupeaumé a suggéré de faire des propositions entre ceux qui voulaient un centre commercial ou une vraie médiathèque, on en est vite arrivé aux insultes. Sans parler du groupe, très petit mais très actif, pour un skatepark. La belle démocratie est devenue un bazar. Au début, Kamel recevait des messages des trois côtés. Mais comme il ne likait que ceux pour la médiathèque, eh bien l'algorithme a cessé de lui en proposer d'autres. Il n'échangeait plus qu'avec des gens de son avis, fini le débat et l'esprit critique. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir par une fake news. Le maire avait déjà choisi en secret le centre commercial pour mettre son fils à sa tête. L'origine de cette infox, un fumeux groupe de BTP dont l'activité principale est la construction de médiathèques. Les réseaux ont changé les règles de la démocratie. Les débats compliqués y sont résumés à de courts messages. Des acteurs opaques cherchent à influencer les échanges. Une minorité bruyante peut s'imposer. Et puis une médiathèque, un skatepark ou un centre commercial, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il faut du temps pour y réfléchir, pour les construire. Tout le contraire du buzz des réseaux qui nous empêchent de nous poser.
Donc, dans cet extrait qui vient d'une vidéo de l'UMNI, une plateforme de France Télévisions, et qui s'intitule « Démocratie et réseaux sociaux, quel impact de la prise de parole en ligne ?», on retrouve des éléments critiqués par Debrun Batter. Par exemple, le fait que quand on a une communauté plus petite mais plus bruyante, ça fausse un peu le réel ressenti sur une population. Mais on peut aussi retrouver de nouvelles limites dans cet extrait, en particulier le cas des réseaux sociaux. Donc on a l'exemple d'un utilisateur qui a accès à du contenu différent, présentant des opinions différentes, mais à force de liker une seule voix, une seule façon de penser, une seule opinion, l'algorithme va encore plus enfoncer ce renfermement d'idées et va lui proposer du contenu en accord avec ce qu'il a déjà confirmé. Donc ça rejoint un peu ce qu'a dit Hector plus tôt, le fait de se renfermer dans une opinion, et ça s'appelle le biais de confirmation. Et c'est un biais cognitif qui va privilégier certaines sources d'informations en fonction de ce que l'on croit déjà. Et c'est un biais qui est encore plus présent sur les réseaux sociaux de par la présence d'algorithmes qui suggèrent du contenu. Donc ce biais de confirmation, il laisse difficilement place à une ouverture du débat. Il y a aussi le problème des fake news. Aujourd'hui, de plus en plus, il est facile de faire croire à des choses qui sont fausses à des personnes qui n'ont pas forcément vérifié l'information. La plupart du temps, les utilisateurs ne prennent pas le temps d'aller vérifier les sources de tout ce qu'ils lisent, puisqu'on se retrouve facilement submergé de beaucoup d'informations. Donc ce phénomène de fausses informations peut aussi être dangereux pour le débat public. Enfin, il y a aussi mention dans l'extrait de la forme que prennent les informations et les débats, puisque sur les réseaux sociaux, on a souvent des données très condensées. On entend d'ailleurs la phrase « les débats compliqués, ils sont résumés à de courts messages ». Voilà, même si les médias sociaux présentent des avantages, comme l'accès universel ou ce qui a été cité avant par mes camarades, il y a aussi des points négatifs auxquels il convient de faire attention. Merci pour votre écoute.
Merci Isabelle, merci à toi pour cette partie-là. Alors oui, tu termines sur le fait qu'il y ait des courts messages échangés sur les médias sociaux, et on comprend en effet en t'écoutant qu'un problème général de ces espaces de discussion en ligne, de ces médias sociaux, c'est eh bien, le caractère superficiel, immédiat des messages échangés, parce qu'ils ne peuvent qu'être trop courts, parce que les conversations se tiennent à un rythme effréné. Bref, si je ne suis pas subtile du tout, et si j'y vais un petit peu à la hache, je peux dire voilà, on a troqué le débat d'arguments approfondis et le temps nécessaire à la réflexion par des espaces où on échange trop vite avec des arguments trop courts de surface. Alors bon, à partir de ce constat-là, donc je fais exprès de ne pas nuancer, quelqu'un a bien dû avoir l'idée avant moi de dire bon, bah, très bien, pas de problème, on va donc créer un espace de discussion où, eh bien, moi je veux que tous les messages fassent au moins 200 mots de longueur, qu'on puisse échanger des messages qu'à deux journées d'intervalle, enfin voilà, quelqu'un a bien dû avoir cette idée-là avant. Est-ce que, donc à partir de là, le défi c'est d'essayer de créer des espaces comme ça, de les rendre attractifs, ou est-ce qu'on sait déjà que ça ne marche pas et alors qu'il faut essayer d'inventer autre chose? Alors vous pouvez toutes et toutes répondre. Je vois, c'est une question difficile, Isabelle, mais vas-y, si tu as une piste, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'espace de discussion en ligne de cette forme-là? Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas tous déjà?
Alors, de la même façon que Hector avait répondu plus tôt, ça doit sûrement exister. Personnellement, j'en connais pas. Je pense qu'il y a un aspect qui n'est pas très attractif pour ces plateformes et qu'elles sont fréquentées que par des personnes qui s'intéressent vraiment au sujet dont il est question. Donc ça ne touche pas la plus grande partie de la population.
Oui, d'accord. Donc là, tu parles en effet de la spécificité après des espaces, des thèmes, des espaces de discussion éventuellement qui seraient donc des espaces de discussion très différents de ceux qui sont proposés, qui sont parfois très généraux, où on parle avec tout type de personnes. Ok, ouais, c'est une piste, Isabelle, ça marche. Alors, je pense qu'on a le temps juste pour une toute dernière question d'Elias, qui demande sur Mattermost s'il y a un moyen de contrer les algorithmes, puisqu'en effet, tu parlais aussi des algorithmes qui nous forment des bulles de filtre, on en a parlé précédemment. Est-ce qu'il y a un moyen de contrer ces algorithmes, de pouvoir avoir accès à toutes les informations sans filtre? Et il y a ces gourmands d'informations sans filtre. Est-ce que vous auriez des pistes? Je vous pose la question à tous les cinq, c'est la dernière question. Parle avec le micro, je t'en prie, c'est le micro, vas-y Alexis. Est-ce qu'on peut répéter la question? Est-ce qu'on peut répéter la question? Oui. Elias se demandait s'il y avait un moyen de contrer les algorithmes qui nous enferment dans des bulles de filtres et puis d'avoir accès à toutes les informations sans ces filtres-là. Vas-y Antoine.
Déjà, je pense que ça a déjà été évoqué tout à l'heure avec les demandes d'acceptation de cookies, etc. qu'on a en arrivant sur chaque site. Déjà, lorsqu'on accepte ces cookies, c'est, je dirais, assez définitif. En réalité, après, c'est enregistré dans notre navigateur si on est connecté très certainement sur notre compte. Et donc, pouvoir peut-être régulièrement vider ces acceptations-là qu'on fait sur des sites en arrivant, quand on est un peu pressé, quand on se dit « Ah, allez, on ne veut pas de cette fenêtre, etc., on veut aller droit au but. » Peut-être, ouais, nettoyer. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent de nettoyer les cookies sur Google ou quoi, par exemple.
Ouais, c'est une des bonnes pistes d'hygiène numérique. Vas-y, je t'en prie, Alexis, oui.
Ouais, enfin après les contrer totalement ces algorithmes, je pense que c'est très compliqué parce que par exemple les médias sociaux, ils fonctionnent en captant nos données personnelles. Ils vont tout le temps nous mettre du contenu qui peut potentiellement nous intéresser pour qu'on utilise ce média social en permanence. Hein. C'est un peu ce qui se passe sur Instagram, YouTube, TikTok. À chaque fois, on a des vidéos qui nous intéressent potentiellement. Et ça, c'est dû parce qu'on capte nos données personnelles. Et puis c'est pareil avec les publicités, enfin à chaque fois ils nous mettent des publicités qui peuvent potentiellement nous intéresser, enfin si on regarde par exemple des vidéos de, j'en sais rien moi, de sport, enfin de foot, de tennis, on va avoir des pubs qui vont s'orienter vers du matériel de sport, on va pas avoir des pubs pour des ordinateurs, enfin voilà, j'en sais rien, donc de contrer ces algorithmes c'est compliqué parce que c'est un peu le fonctionnement des médias sociaux, donc je pense que c'est compliqué à contrer.
Tous ? Non. Un petit village de...
oui, comme j'expliquais aussi plus tôt, tout a été fait en amont. Ça va être compliqué de rechanger tout le système parce que ça fait partie du design même de ces outils numériques-là. C'est de récupérer nos informations pour proposer à différentes marques, commerces, etc. Ce genre d'informations. Et c'est en fait c'est le gagne-pain même de ce genre d'entreprise comme les GAFAM. Donc je pense que ça me paraît compliqué de tout changer comme ça. Parce que ça fait vraiment partie des fondations même de ce qu'on utilise, enfin, de ces outils numériques. Et très rapidement, pour revenir sur la question précédente, il y a aussi un système de facilité, comme l'explique Jérôme Valuy. 200 caractères répondent tous les deux jours. Déjà, est-ce que ça va marcher? C'est la question. Il y a une question d'attractivité et de facilité qui ne sera peut-être pas acceptée par tout le monde et qui ne sera peut-être pas utilisée. Et au final, est-ce que ça servira, quoi? Voilà.
Bon, alors écoute, tu nous lances sur après la gestion de l'attention, l'économie de l'attention, etc. C'est une belle transition vers la présentation qui vous suivra ensuite. Dans quelques minutes, on écoutera si un groupe nous parlait justement d'économie de l'attention et donc qui fait le lien avec ce que tu viens de nous expliquer. Messieurs, dames, on a terminé pour aujourd'hui. Bravo à tous les cinq pour votre présentation.
Merci à vous.
On va donc laisser l'antenne pour quelques minutes et puis cette intervention pourra être réécoutée sur graphite.net et aussi sur la chaîne PierreTube à Paris.tube. Vous pouvez aussi venir voir les supports de W1 sur librecours.net. On se retrouve dans quelques instants pour écouter la dernière présentation des étudiantes et étudiants de W1 qui nous parleront donc d'économie, d'écologie, de l'attention. À tout à l'heure.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou.